Bonjour à tous. C'est vrai que pour moi, aujourd'hui est un jour particulier pour diverses raisons, mais je veux déjà vous remercier pour votre chaleureux accueil. Et puis, pour moi, c'est aussi un privilège d'être parmi vous. Je voulais aussi m'excuser. J'étais très triste le week-end dernier. J'ai eu un impératif familial et je ne pouvais pas être parmi vous. Mais on a un Seigneur qui est tellement incroyable, qui est tellement merveilleux, que il dit que tout concourt au bien. Alors je veux croire que s'il permet que je sois là aujourd'hui, c'est parce que il va parler à nos cœurs ce matin. Merci à l'équipe de louanges. C'est vrai, notre roi c'est Jésus. Et quel merveilleux roi, hein. Il a tout donné pour nous. Et de pouvoir être dans sa présence ce matin, on peut dire, mais ensemble, venons et regardons combien le Seigneur est bon. Vraiment, vraiment. Et vous avez une nature ici qui est juste incroyable et qui est parfaite. C'est vrai que je viens des îles, c'est vrai que j'habite au bord du lac, mais dans cette nature, j'ai pu voir aussi que j'étais venue en hiver, j'étais venue en automne, mais comment Dieu peut renouveler les choses et les sécheresses aussi des plantes, ou quand il n'y a pas de feuilles en automne, et qu'au printemps, il y a la vie qui recommence. Donc c'est une nature qui est merveilleuse aussi ici et qui me parle et qui fait écho. Vous constatez que j'ai beaucoup de joie à être ici avec vous ce matin, mais c'est vraiment en toute humilité que je me tiens là devant vous. Vous avez une communauté qui a plus de 102 ans, ça me parle aussi, enfin qui va avoir plutôt 102 ans, ça me parle. Oui, vous me dites, si je dois vous me faire signe. On est dans la famille de Dieu, donc n'hésitez pas à me faire signe plus haut, etc. Ou pour parler plus fort. Et voilà, je disais que vous allez avoir 102 ans. Ça me touche aussi parce que ça permet de voir la fidélité de Dieu dans votre communauté. Et c'est juste incroyable. Reconnaissance, humilité, parce que je veux vous partager sur le thème de la guérison. C'est vrai que c'est un mot qui peut aussi faire peur. C'est un mot qui peut, on peut se dire, guérison... C'était autrefois, dans la Bible, puis moi je ne suis pas guérie, enfin, tout un tas de choses. Et pour pouvoir amener ce thème, s'interpeller ensemble, je vais déjà vous partager un témoignage, un petit témoignage par rapport à mon vécu. Et puis ensuite, ensemble, on va découvrir un verset et qui va parler à nos cœurs, j'espère, ce matin, est-ce que Dieu guérit encore ? D'accord. Alors, je m'appelle Béatrice. Je vais essayer de m'approcher et de ne pas bouger. J'ai tendance à bouger, donc je vais me mettre un peu plus là. Donc, comme Daniela vous a dit, je m'appelle Béatrice. Je suis mariée à Stéphane. J'ai deux beaux enfants. Je n'ai pas d'enfants naturels, mais j'ai des enfants spirituels. Je vous expliquerai pourquoi après. Et ça, c'est une grâce de Dieu pour moi. Ma fille Margot a 24 ans et mon fils Julien a 21 ans. Mon arrière-plan, je viens d'une famille qui est à la fois hindoue et catholique. J'ai plusieurs mélanges en moi, donc plusieurs arrière-plans, mais je suis avant tout, comme vous, fille de Dieu. Et ça, c'est mon ADN, notre ADN. J'aime Jésus et j'essaye, je pense comme vous tous, de le servir. Parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas du tout, parfois, je vacille, mais... Je prie toujours le Saint-Esprit parce que le Seigneur nous dit, il est là pour nous corriger, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous convaincre, il est notre fidèle guide, notre fidèle conseiller, notre défenseur. Donc je prie instamment et constamment toujours pour que, quand j'y arrive pas, il m'aide à me remettre en marche. Et tout à l'heure, j'ai fait la connaissance de Werner rapidement. Et ça a touché aussi mon cœur par rapport à ce qu'on va partager ce matin, enfin ce que je vais vous partager. Il a dit, je suis venue à pied et je crois qu'il faut que je me mette en marche et c'est bien de marcher. Et ça, ça a parlé à mon cœur parce que ça sera en lien avec le verset que nous allons découvrir tout à l'heure par rapport à ce thème de la guérison. J'ai eu ma première rencontre avec Jésus, je parle assez fort, parfait. J'ai eu ma première rencontre avec Jésus à l'âge de 5 ans, dans les îles, comme a dit Daniela. Je me suis convertie il y a une quinzaine d'années et j'avais vraiment cette soif de découvrir l'amour de Jésus. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a parlé, cette identité en Christ, Dieu est amour. À l'âge de 24 ans, je vais avoir 50 ans, on a découvert que j'avais une maladie auto-immune. À l'époque, cette maladie n'était pas très connue. Et on m'a dit, mademoiselle, à l'époque, ça sera très compliqué d'avoir des enfants. On ne sait pas grand-chose sur cette maladie, donc on ne peut pas faire énormément de choses pour vous. Mais moi, je me suis dit, bon, je n'étais pas encore convertie. On a Dieu et puis tout est possible avec lui. Bah, bien sûr, puisque la parole le dit. Donc j'aurai des enfants naturels et j'en voulais 6. Vous voyez, hein, comme quoi. Et puis j'ai commencé au fur et à mesure des années à avoir des symptômes invalidants, plusieurs opérations que j'ai dû subir. La maladie pouvait rester 13 ans où j'avais une accalmie, ou sinon tous les 2-3 ans se faire opérer. Donc pas évident d'avoir une vie de cette manière-là, de travailler, d'avoir une vie de couple et même de servir le Seigneur, puisque ma priorité, c'est de servir le Seigneur, que ce soit dans ma famille, dans mon travail, et bien sûr à l'église. Donc j'étais souvent arrêtée en cours de route, et Werner a dit, il faut marcher, ça fait du bien, et je ne pouvais pas marcher. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de colère, hein, bien sûr, parce qu'il faut faire des contrôles tous les 3 mois, des examens de santé. Donc on a une épée de Damoclès, si je puis dire, sur la tête, et puis on ne sait jamais vraiment comment les choses vont se passer. Et puis aussi, un traitement alimentaire, je peux manger très peu de choses, parce qu'il semblerait que ça soit le seul traitement, on n'est pas sûr, qui peut plus ou moins atténuer des douleurs. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en août dernier, je vais faire mon contrôle et puis j'ai bien suivi tous les protocoles, j'ai prié le Seigneur, j'ai jeûné, prié. J'ai énormément de frères et sœurs qui prient pour moi et ça c'est une grâce, vraiment, pour m'encourager dans le quotidien. J'avais tout plein de projets, je suis guérie, c'est bon, etc. Je fais mon contrôle et puis là on m'annonce, écoutez, vous avez une variante de la maladie qui est inconnue et qui fonctionne comme un faux cancer et qui se métastase. Donc mon mari était avec moi, je sentais bien que je n'allais pas bien physiquement, il faut être honnête. Mais je disais, bon Seigneur, voilà, etc., il y a l'âge. Et puis là, je me dis, mais c'est quand même étrange, parce que j'ai combattu pendant 25 ans, le Seigneur m'a donné des accalmies, et là on me dit que j'ai 6 organes atteints. C'est un tsunami, c'est un truc de dingue. On a beau servir Dieu, on a beau... avoir la plus grande foi au monde, sur l'instant, quand le professeur vous dit ça, vous êtes quand même, vous recevez un peu un hypercute. Et puis, mon mari qui était là était effondré, il savait que dire et que faire, et puis j'étais tellement préoccupée par sa réaction que je disais, mais Seigneur, mais donne-lui la force. Et puis, tout d'un coup, pendant que le professeur, alors je ne l'écoutais plus, c'était mon mari qui posait les questions, puis moi j'étais là avec mon Dieu, en colère et amère et ne comprenant pas. Et puis tout d'un coup, j'entends, Saint-Esprit me met sur mon cœur et murmure à l'oreille, Stéphane a parlé des sens et a parlé de l'oreille ce matin. Et j'entends, marche par la foi et non par la vue. Puis moi je ne veux pas entendre ce verset. Moi, je veux voir, puisque le médecin, il me montre à travers l'imagerie ce qui ne va pas. Et j'avais ce verset qui venait instamment et constamment, « Marcher par la foi et non par la vue ». Ce verset est dans 2 Corinthiens 5, 7. « Comment avancer quand tout s'écroule autour de nous ? On ne peut rien programmer, on ne peut rien anticiper. » Et moi, comme je ne suis pas parfaite comme vous, puisque Jésus a dit que ce sera quand il sera de retour que nous serons parfaits, j'ai beaucoup de défauts et dans un, j'aime planifier et anticiper. Je dois avouer que la patience n'est pas un don naturel chez moi. Je persévère toujours pour avoir ce fruit de l'esprit, c'est aussi un fruit de l'esprit. Et je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée dans la chambre et j'ai pleuré, j'ai crié. Je ne voulais pas que mon mari me voie parce qu'il était déjà tellement effondré. Et surtout que le professeur avait dit, ben, on va faire une opération qu'on n'a jamais faite. Je suis là, le seul cas en Suisse. Mais en même temps, dans l'infinie grâce de Dieu, il y a 3 centres de recherche au monde. Et l'un d'eux est à 1h30 de chez moi. Donc, Dieu fait grâce tout de même. Et donc, je me suis mise à pleurer, à crier, à hurler. J'ai fait mon traitement alimentaire et Dieu sait que ça me coûte parce que j'adore faire la cuisine. J'aime recevoir les gens. Pour moi, c'est une manière de donner de l'amour aux autres, de les accueillir et de faire à manger, de prendre soin. Et du coup, ben, Seigneur, je me suis mise devant mon Dieu. Puisqu'il dit, ben, criez à moi. Même Jésus a crié dans le désert. Il savait que ce qu'il allait accomplir allait être difficile humainement. Il le savait, mais il a accepté d'aller dans ce désert. Et le Seigneur m'a invité à aller dans ce désert en me disant, je t'invite à me rejoindre. Vu que tu as du temps, que tu es pratiquement alité et couché, passe du temps avec moi. Le groupe de louanges l'a dit. Passez du temps dans sa présence. Passez du temps dans ma présence. Viens, je viens moi aussi avec toi dans ce désert que tu ressens, au plus profond de ton cœur, et bien sûr dans ce corps qui ne peut plus se lever. Je n'avais pas ce débit de voix, hein. Daniela pourrait en témoigner. Des fois, je crois qu'elle n'osait pas m'appeler ou je n'osais même pas lui laisser des messages pour qu'elle ne s'inquiète pas. Et Seigneur me disait, ben, dans ce désert, moi j'ai une oasis pour toi. Marche par la foi et non par la vue. Mais moi je veux marcher par la vue. Je veux qu'on me dise, ben, tes 6 organes, ben, voilà, il y a un traitement, tu vas pouvoir revivre comme avant, tu vas pouvoir planifier, anticiper, aller pour le Seigneur. Et là, stop, tu ne peux pas. Même si mon cœur veut, je ne peux pas physiquement. Et là, cette oasis, je me disais, mais ouais, c'est vrai qu'en oasis, il y a une source de vie, parce qu'il y a de la nourriture, il y a de l'eau, etc. Il y a des jolies vallées, il y a des jolies plaines, comme ici. Et le Seigneur me dit, ben, c'est dans cette source qui est dans le désert, tu vas pouvoir trouver de la force, puiser de la force, il y a un puits. Du repos, parce que si tu es malade, ça veut dire que tu as aussi besoin de repos. Et moi, c'est un mot que j'aime pas. J'aime pas parce que ça veut dire qu'on doit s'arrêter. Et moi, j'aime faire les choses. Mais là, le Seigneur me dit, être, le verbe être, je suis celui qui est. Il n'a pas dit, je suis celui qui fait. Mais moi, j'aime faire, parce qu'il y a toujours le moi, hein, qui vient pour chacun de nous. Viens, je vais te donner du repos. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Dans nos Bibles, c'est dans Luc 1,37. Alors que le professeur dit, Madame, on ne sait pas si vous allez survivre à cette opération, il faut 3 professeurs pour vous opérer. Et il faut commencer à préparer une lettre. Et puis, comment dire ça à mon époux aussi? Comment? Parce que le professeur, je l'avais eu au téléphone. Parce qu'on n'est pas prêt à ce genre de choses. Donc toujours dans ce désert, j'ai continué à passer du temps dans la présence de Dieu, même si je n'avais pas envie des fois, même d'ouvrir ma Bible. Je pleurais et mon cœur criait à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi dans ce désert? Mon plus grand désir, c'est de te servir. C'est la priorité de ma vie, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'y suis pas arrivée, puisque j'ai fait quelque chose de mal, parce que là on a la chair qui vient nous titiller. Pourquoi moi? Et je me rappelle que le professeur m'a dit, donc je l'ai vu au mois d'août dernier, et il m'a dit on va vous opérer en septembre parce que c'est urgent. Plusieurs mois passent, toujours pas de nouvelles du professeur, et moi je m'affaiblis de plus en plus. J'ai des sœurs qui sont des bénédictions. Quelle grâce d'avoir une famille spirituelle dans ces moments-là, parce que ma famille vit à l'étranger, qui se sont organisées pour faire le ménage. Dans ce désert, il y avait une oasis des sœurs. Elles se sont organisées pour venir faire à manger, pour venir faire le ménage. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, je commence à voir qu'il y a quelque chose dans ce désert. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas abandonnée. Août passe, pas de nouvelles. Septembre passe, plus de nouvelles du médecin. Octobre passe, plus de nouvelles du tout, du tout. J'appelle, j'ai écouté, je suis vraiment de mal en mal. Vous m'avez dit que c'était extrêmement urgent. Les organes commencent à se coller entre elles. Et vous ne m'avez toujours pas fixé de date. Et là, la secrétaire me dit, écoutez madame, vu qu'il faut plusieurs professeurs pour vous opérer en même temps, ils n'arrivent pas à joindre leur planning. Parce qu'on doit vous intégrer. Je prie, je demande à des sœurs et frères de prier. Et puis tout d'un coup, un jour, en décembre, vous imaginez août, hein, en décembre, je reçois un coup de fil du secrétaire, donc de l'hôpital, de la HUG, pour le citer exactement. Et puis il m'a dit, écoutez madame, on est désolé à cause du Covid, il y a eu plusieurs retards d'opération, et il y a des cas qui sont beaucoup plus graves que vous. Mais pour moi, dans ma situation, puisqu'il y a toujours le moi, hein, on est un petit peu le centre du monde, ben non, ce que j'ai, moi, c'est super grave. En même temps, c'est vrai, dans la réalité visible de la chose, mais le Seigneur permet de voir qu'il y avait des personnes aussi qui pouvaient mourir aujourd'hui ou demain. Donc, que leur situation était aussi importante que la mienne. Et puis, quand ce jeune monsieur me dit au téléphone, ça sera le 22 janvier. Et là, je commence à m'énerver. Je m'énerve très rarement. Mais là, je souffrais tellement dans mon corps, je ne comprenais pas, et surtout que Dieu m'avait dit, va par la foi, et non par la vue. Donc, je me disais, il va permettre que l'opération se fasse super vite, puisqu'il a compassion de moi. Donc je m'énerve contre ce jeune homme, et puis ben, le Saint-Esprit vient corriger, demande pardon. Qu'est-ce qu'il y peut, lui ? Donc je lui demande pardon, il accepte mon pardon. Et là, mon mari rentre plus tard et je lui dis, mon mari n'est pas encore baptisé, ça fait plusieurs années qu'il est converti, mais il n'est pas baptisé, il ne lit pas souvent la Bible. Donc ça, c'est des choses qui me titillent, moi qui suis toujours avec ma Bible, etc. Mais Dieu m'a donné cet époux-là. Et comme quoi, parfois, on a de l'orgueil spirituel. On pense que parce qu'on sert Dieu ou parce qu'on lit la parole, qu'on sait mieux que les autres ou qu'on entend mieux que les autres. Je pense que chacun de nous a pu passer par là un moment. Et mon mari, il me dit... Écoute, et moi je me suis dit, il va s'effondrer, je vais encore gérer ça, c'est plus possible pour moi, Seigneur. Et mon mari, je dis, ben voilà, l'opération est au 22 janvier. Et il me dit, si Dieu permet cela, alors fais-lui confiance. Il a une bonne raison. Et là, je vais vous dire que dans la vérité de nos cœurs, il m'a corrigé. Et je me disais, mais il n'est même pas baptisé, il ne passe pas du temps avec Dieu. Puis Dieu l'utilise pour me corriger. Amen, amen, mais quand même. Je suis repartie dans ma chambre avec notre Seigneur parce que j'ai réalisé que ce jour-là, mon mari a été une bénédiction pour moi. Mesdames, on se connaît entre dames. Ayons compassion d'eux. Prions au moins pour avoir plus de compassion pour nos époux, parce que nous, on pense souvent tout savoir, avoir tout compris, mais combien Dieu peut les utiliser dans nos vies. Et mes sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariées ou qui n'avez pas de quelqu'un encore dans votre vie, faites confiance aussi à vos frères quand ils reçoivent une parole. Ayez confiance. Alors, j'ai demandé à Dieu de m'aider à comprendre ce verset. Marcher par la foi et non par la vue. Et d'apprendre à lui faire confiance. Vous savez, des fois, moi, c'est ma manière de fonctionner avec le Seigneur et je demande pardon. Je vous ai dit, je ne suis pas parfaite et loin de là. Et le Seigneur dit aussi qu'on doit le confronter, mais dans l'amour de Christ. J'ai dit, ok Seigneur, tu as utilisé mon mari, je décide de croire aujourd'hui. Alors je dois t'avouer Seigneur, je ne suis pas encore convaincue. Mais comme Werner, je fais un pas, je marche. Pour venir au culte, en l'occurrence. Mais je décide de faire un pas dans mon cœur, parce que c'est la parole qui le dit, que tu peux intervenir là où moi, les professeurs, même mes frères et sœurs, n'ont plus de solution. Quand il n'y a pas de solution et qu'on est dans ce désert, on ne voit pas l'oasis. Hein. Au lieu de, on est en face de l'oasis, mais on a souvent le dos comme ça. Pareil, au lieu de regarder dans le phare, la lumière de Jésus, qui nous dit « mais viens vers moi, ça sera plus paisible ». On est là à regarder la vague, comme ça. Mais qu'est-ce que peut nous faire la vague, si on a Jésus ? On va être super mouillé. C'est pas grave, Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des vêtements, de les faire sécher, on a des sèches-linges, enfin bref. On va tomber dans l'eau, et alors ? Jésus va envoyer une énorme bouée ou un bateau, ce que vous voulez. Le bateau, il va se renverser. Ben, Jésus va nous remettre dedans, et hop, cap sur le phare. Mais nous, on est comme ça. Jésus te dit, mais lâche la vague. Si je permets, je ne dis pas que ça vient de moi, si je permets qu'elle soit là, tu ne crois pas que tout concourt au bien, que ma grâce te suffit ? Non, Seigneur, je veux que mes organes, tout aille bien. Et pourtant, regarder à ce phare, ne pas porter la vague. Est-ce que Jésus ne nous invite pas à faire ça dans nos déserts ? Son joug est léger. On peut déposer les fardeaux à Jésus. Et du coup, il prend ses fardeaux. C'est David ? Il prend ses fardeaux, David. Tu sais, c'est comme un sac à dos. Tu vois, tu avais un sac tout à l'heure. On dit que c'est le fardeau pour chacun de nous. Il est lourd, le sac. On est d'accord. Des fois, il peut être un peu plus léger. Et dans ce sac, c'est tout ce qui nous empêche de nous sentir bien, par exemple. On dépose ce sac et tout d'un coup, on dit on peut marcher plus facilement, on est plus léger. Donc, c'est ce qu'on appelle le joug, le fardeau. Et puis, j'ai dit, ben d'accord Seigneur, je vais rester dans ce désert un temps, puisque tu dis que c'est pour un temps. Il nous dit que les tribulations sont pour un temps dans sa parole. Mais je veux que quand je vais sortir de ce désert, que tu me rappelles à toi ou pas, parce que je ne savais pas. Mais si c'est ton désir de me rappeler à toi, avant de me rappeler à toi, que je puisse témoigner de ce que tu es en train de me faire vivre dans ce désert. Je te demande qu'une chose, si tu veux me guérir, tu le feras. Tu es Dieu. Si tu ne veux pas le faire, tu es Dieu. Mais quand je te verrai, j'aurai une petite conversation d'amour avec toi, papa. S'il y a des choses que je ne comprends pas. Et j'étais aussi reconnaissante que Dieu, mon mari, qui était effondré lors du diagnostic, de voir ce pas de foi, quand moi je perdais la foi, et que par sa phrase, mets ta confiance dans l'Éternel, s'il permet que cette opération soit retardée de plus de 4 mois, c'est que Dieu a une bonne raison. Et du coup, j'ai commencé à avoir de l'espérance. J'ai commencé à avoir une joie, mais bien sûr, ce n'était pas par mes propres forces. C'est parce que je passais du temps dans sa présence. Mais j'ai dû faire ce pas-là, apprendre à le faire par son Saint-Esprit qui a convaincu mon cœur. De moi-même, c'était impossible. Trop de colère, trop d'amertume. Et puis, vous savez, 3 jours après que le secrétaire m'ait appelé, des frères et sœurs sont venus prier pour moi à la maison. des prières de guérison, vous savez, il y a tout un tas de choses, des prières de délivrance. Et une semaine après, Dieu a passé sa main. Moi, j'étais prête pour l'opération, j'avais lâché prise. Je dis, si tu feras ce que tu veux. Et le médecin m'avait dit, si vous en sortez, jusqu'en juin 2022, nous sommes au mois de mai, tu seras couché, alité, avec plusieurs sondes, et il te faudra presque une année pour te remettre de ces opérations. Mais on ne peut pas garantir que la maladie ne reviendra pas. Donc une semaine après, j'ai commencé à avoir un petit mieux, plus de douleur. Je me disais, c'est dans ma tête, femme de peu de foi. Et les semaines passèrent, c'était au mois de décembre, jusqu'à un jour où, de manière naturelle, d'autres diront de manière surnaturelle, je me suis sentie nettement mieux. J'ai retrouvé 70% de mon énergie. J'ai été faire des examens. Et là, on me dit, madame, sur vos 6 organes, la maladie a arrêté de progresser. Elle n'est pas partie, mais elle est comme dans le coma. Donc, vous n'avez plus besoin d'opération. Alors, scotché, que dire ? Et un frère m'avait dit, celui qui avait prié pour moi, l'importance, je répète, cette grâce d'avoir une famille spirituelle. Et ce frère qui avait prié pour moi, il m'avait dit, tu n'auras pas d'opération. Dieu est Dieu. Mais bien sûr que je ne l'ai pas cru. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, alors que je devrais être couchée, alitée, allongée sur le lit, ne pas pouvoir me lever. Ça veut dire ça, le mot alité. Tu ne peux plus bouger, tu ne peux pas faire grand-chose. Pardon ? Exactement, David. On peut dire aussi en état de léthargie. Et j'ai compris pourquoi ce verset, quand j'ai dit « j'ai compris », bien entendu, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Marcher par la foi et non par la vue. Et ce verset parle encore aujourd'hui à moi. On l'a chanté quand je suis arrivée dans la salle. Je ne sais pas quel est ton prénom. Soline. Soline était en train de chanter un chant où il y avait marqué « Je viens vers toi, je marche vers toi ». Et quand j'ai fait la connaissance de Werner et qu'il a dit « Je suis venue à pied », mais il faut marcher, je dois marcher. Je dis, mais qu'est-ce que votre communauté me bénit ? Quelle grâce d'être là. Parce que c'est ce verset que Dieu m'a donné dans mon désert et que je vous partage aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire marcher ? Oui, David. Oui, oui, exactement. Tout à fait. Marcher, c'est... J'ai du mal à rester sur pour un micro. Donc, marcher, effectivement, un enfant, bien sûr, un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il apprend à marcher ? Mesdames, vous qui êtes des mamans naturelles, qu'est-ce qu'un enfant fait quand il apprend à marcher ? Ou quand il ne sait pas marcher, que vous découvrez, vous appelez le papa, il a fait son premier pas. Alors, c'est une fête de famille, le premier pas. Qu'est-ce que vous avez déjà remarqué quand un enfant commence à faire un premier pas ? Oui, aussi, David. Bah oui. On ne marche pas d'un coup, hein ? Selon Larousse, est-ce que quelqu'un a une autre définition du mot marcher ? Ou une image, quelque chose qui lui viendrait ? David a eu cette image, de... Oui ? Oui. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi ça s'appelle le marcher... R à la fin, mais c'est vrai qu'il y a aussi, on va dire, un tas de ressources qu'on trouve aussi dans l'oasis du Seigneur. Bien sûr, il y a plein de bonnes choses à manger et qui nous permettent d'avoir des forces pour marcher. Quelqu'un aurait une autre définition ?
Se mettre en mouvement.
Exactement, se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est pas faire, hein. Comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui était dans le faire. Se mettre en mouvement, c'est une décision. On peut très bien dire je marche, je veux marcher. Mais quand on est couché, je parle de manière spirituelle, même si je l'ai été de manière physique, mais quand on est couché et qu'on ne peut pas se lever, on peut se mettre en action. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut se mettre en action ? Hein, David ?
Le cœur, il
allait bien sur les six enfants. Oui, par sa grâce. Et pour en revenir à ce que dit David, merci beaucoup, c'est une décision de cœur, se mettre en mouvement avec le Seigneur. Et selon le dictionnaire, on l'a dit, se déplacer, c'est mettre un pied en avant. Toujours selon le dictionnaire, c'est tendre vers l'objectif, un résultat, un état. On dit marcher avec succès, par exemple. Mais pour nous, chrétiens, on parle toujours, hein, on voit dans les actes, ils ont beaucoup marché, hein, les apôtres. L'église, pour que l'Église primitive prenne vie, selon le Saint-Esprit aussi, hein, qui les conduisait. Exactement. Ils ont énormément marché. La parole nous enseigne que marcher, c'est décider d'aller de l'avant pour atteindre un but. Décider de marcher pour atteindre un but. Et dans ce verset, marcher par la foi et non par la vue, hein, on a d'abord marché, première étape, par la foi, on va dire que ça c'est un peu, c'est notre objectif. Et comment ? Marcher, ben, ne pas marcher par la vue. Se mettre en mouvement, c'est aussi une position. Quand on marche, David nous a montré tout à l'heure, on peut marcher debout. Alors effectivement, les enfants marchent à quatre pattes, mais après l'objectif c'est de se tenir debout. C'est une position. C'est se tenir ferme. Si on vacille, on ne peut pas marcher. Donc ça veut dire que je me mets en mouvement pour le Seigneur. Je tiens ferme dans ma position. Et que quel que soit le caillou qui est sur mon chemin, ou la montagne, ou le désert, bien sûr, il n'y en a qu'un seul qui peut rendre le chemin droit. Il nous dit que ce chemin est étroit. Certes, mais il n'y a que lui qui peut enlever ses cailloux et mettre des oasis là où il y a le désert. C'est se tenir aussi dans la parole. Le Seigneur nous dit que sa lampe illumine nos pas. Donc la parole nous donne la direction. Quand le corps ne peut plus, quand le cœur ne veut plus, seule solution. Jésus. Et ça n'est pas fait pour rester fermé. Alors on a les smartphones, il suffit juste de cliquer. La vérité de la parole, la justice de la parole, et que même si nous ne comprenons pas pourquoi nous ne sommes pas guéris, je ne peux pas dire que je suis guérie. Alors nos frères et sœurs charismatiques diraient: tu n'as pas le droit de dire ça. Tu dois proclamer que tu es guéri. Alors physiquement, je ne le suis pas. Et je ne peux pas proclamer que je le suis, puisque physiquement, je ne le suis pas. Mais Dieu, dans son infinie grâce, il va nous rejoindre dans nos souffrances. Qu'elles soient dans notre corps, qu'elles soient dans notre âme, Il dit qu'il est celui qui guérit. Pas facile à comprendre quand on n'a pas encore été guéri. Mais dans la foi, il est celui qui guérit. Et je veux vraiment le déclarer. Même si nous ne voyons pas la guérison dans notre santé ou dans d'autres domaines de notre vie, mais nous avons cette ferme assurance que le Seigneur y prend soin. Est-ce que vous croyez qu'on a un Dieu qui prend soin ce matin? Est-ce que vous croyez? Oui, David. Tu crois? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que sa main est posée sur nous constamment? Même quand vous êtes dans le désert? Oui, amen. Et il nous tient la main. On l'avait aussi dans ce chant tout à l'heure. Comme quoi, comment Dieu utilise tout le corps de l'Église, tout son corps, pour s'encourager, parce que la louange, tous vos chants, les paroles, étaient en lien avec ce que le Seigneur m'a mis pour vous partager. Et ça m'a donné confiance de témoigner, ainsi que Werner. Et votre accueil et sourire. Et c'est vrai qu'on est tout le temps là, mais pourquoi? Pourquoi? Et dans ce désert que j'ai traversé, le Seigneur me disait, mais est-ce que je n'ai pas fait des promesses? Quand on regarde le fil conducteur de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, est-ce que je n'ai pas tenu mes promesses? Dans Jean 14, 16, le Seigneur nous dit, si vous avez des Bibles, je vous encourage à les ouvrir. Si vous avez un smartphone, ouvrez l'apps. Ou sinon, tout simplement, Stéphane nous a parlé des oreilles. Demandez à Dieu d'ouvrir nos oreilles ce matin pour que ça puisse venir dans nos cœurs. Jean 14, 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, un autre consolateur, un justicier, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Car l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, quant à nous, mes frères et sœurs, nous le connaissons, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous, l'Esprit Saint. Non, nous dit Jésus, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je pars, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. Et n'ayons aucune crainte dans nos cœurs face à nos épreuves. Nous avons vu marcher, maintenant nous allons voir par la foi. Un pas de foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi, car être sur le chemin de Jésus, il a dit, nous allons avoir des épreuves. Il a dit que ça ne sera pas facile. Bien sûr que nous le savons tous, nous l'avons lu, on nous l'a répété, on nous l'a enseigné. Mais lorsque nous sommes sur ce chemin et qu'il y a la montagne, est-ce que ces paroles, nous les mettons en pratique? Et c'est aussi un processus, la marche chrétienne, le processus de guérison aussi. C'est un chemin. Et Jésus nous accueille, il accueille nos peurs, il accueille nos craintes pour nous donner les bonnes chaussures, le bon sac à dos, les bons légumes, les bonnes choses pour mettre dans ce sac, pour pouvoir avoir des ressources, la bonne oasis, pour apprendre à faire des petits pas. De progrès en progrès, nous dit l'apôtre Paul, sur le chemin, sur son chemin à Jésus. Faire des petits pas comme des enfants, nous sommes appelés à grandir spirituellement. Processus de guérison, mais c'est croire aussi que où il y a la maladie, Dieu peut être un baume, il ne m'a pas guéri encore. Mais j'ai la paix, j'ai la joie. Et cette guérison spirituelle, elle vaut davantage que ma guérison physique. Elle me permet d'être aujourd'hui avec vous et de vous témoigner. Non pas par ma force, mais par sa force. Qui dit guérison dit forcément qu'il y a souffrance. Bien sûr. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut vraiment parler à nos cœurs. Là où il y a la tristesse, si tu es triste ce matin, Dieu peut mettre la guérison de la joie. Si tu as de la colère, Dieu peut mettre la guérison de paix. Si tu as de la culpabilité, Dieu peut y mettre sa libération. Si tu as le non-pardon, je ne suis pas prête à te pardonner. Il peut y mettre une réconciliation. Là où il y a la haine, Jésus peut y mettre la guérison par l'amour. On en a des ressources dans l'oasis, n'est-ce pas? C'est merveilleux, hein, de voir ces fruits que Dieu peut nous donner dans cette oasis, qui sont en fin de compte des fruits de guérison. Est-ce qu'on croit que de nos jours encore, que Dieu peut transformer notre manière d'être? Maintenant, c'est le premier mot que je mets avant faire. J'apprends. Transformer notre manière d'être, de réagir et de faire. Et ce verset se termine par « et non par la vue ». Sans mes lunettes, je ne peux pas lire. Sans les oreilles, on ne peut pas entendre. Dieu nous a donné 5 sens. Il nous a fait aussi notre humanité, il aime aussi notre humanité. Et ces 5 sens nous permettent de percevoir les réalités visibles. On a dit, hein, Stéphane aussi parlait de cette nature, Daniela aussi. Nos yeux voient cette belle nature, on peut respirer l'air, l'odeur de l'herbe, etc. Et si Dieu nous a créés ainsi, bien sûr, ça nous permet aussi d'avoir des repères, parce que nos sens sont aussi une boussole physique. Mais je crois que Dieu désire plus que ces repères physiques pour nous. Et dans ces repères, nos sens sont liés à nos émotions, à notre senti, à notre sensation. Tout cela, ce sont des éléments qui sont charnels. Et nos émotions, notre ressenti peuvent être liés à la peur, au doute, à l'angoisse, à la tristesse, aux blessures aussi. Et Seigneur, il nous invite à enlever nos lunettes, parfois à ne pas écouter humainement, mais laisser inviter le Saint-Esprit à venir nous rejoindre dans nos sens pour apprendre à marcher, mais avec sa boussole, avec son cap, à regarder à ce phare qu'est Jésus, à être dans sa parole. Si nous ne faisons que lire la parole et que nous n'invitons pas le Saint-Esprit à nous aider à vivre chaque mot, des fois des virgules, comment pouvons-nous être sel et lumière? Comment pouvons-nous parler de guérison spirituelle avec la joie, l'espérance, la paix? Peut-être ce matin, tu passes par un désert. Il n'y a que Dieu qui connaît nos situations. Mais ce matin, tu es venu tel que tu es. Peut-être tu passes par des souffrances dans ton couple. La première église est dans le couple, pour ceux qui sont mariés. Et Dieu sait que c'est difficile. Mais il dit que c'est la première église. Peut-être tu as des problèmes avec tes enfants, avec tes petits-enfants, dans ta famille tout court. Peut-être il y a un frère ou une sœur qui t'a blessé dans le passé, dans le présent. Peut-être tu es en colère contre Dieu. Je voulais 6 enfants. 0. Mais dans son infinie grâce, il m'a appris à être une mère spirituelle. Non pas par mes forces, parce que je n'ai pas demandé ça. Je voulais être maman et entendre ce mot « maman ». Il m'a dit, mais non, tu seras une maman spirituelle. Du coup, j'ai 10 enfants, alors que j'en voulais 6, j'en ai eu encore plus. Quelle grâce! Je ne dis pas que les enfants spirituels remplacent les enfants naturels, mais Dieu peut guérir de cette manière-là. Peu importe ce qui te fait souffrir ce matin, ce qui nous a fait avec un cœur et qu'on a des émotions, on est tous passés par la souffrance ou on a tous encore des souffrances. Donc ça veut dire qu'on a besoin de guérison. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te feras pas brûler. Et la flamme ne te fera pas de mal. Quelle promesse! Quel encouragement à travers le prophète Isaïe! Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Et nous l'avons chanté ce matin aussi. Il a promis qu'il sera toujours là. Surtout dans les déserts. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans le désert? Pourquoi je dois passer par là? Stop au pourquoi. Prenez votre panneau ce matin. Stop les pourquoi. Les pourquoi, c'est des poisons. J'en ai eu pendant plus de 25 ans et j'en ai encore. Je ne suis pas arrivée encore, je suis comme vous. J'ai des domaines où, waouh, j'ai pas enlevé les lunettes encore pour marcher par la foi. Face au pourquoi, il y a ce panneau stop. Quand on ne sait pas, on ne sait plus, on n'a plus la direction, et qu'on a besoin que Dieu vienne guérir quelque chose et nous rejoindre, passe du temps avec Dieu. Tu ne veux pas lire la Bible? Va marcher, il y a des plaines immenses ici. Passe du temps dans sa présence. Invite-le dans ce qui te rend en colère, dans ce qui te rend amer. Il a dit, venez à moi, demandez. Rien n'est acquis, mes frères et sœurs. Nous n'y sommes pas encore arrivés, on est tous en chemin. On doit faire des pas, choisir de faire des pas. Et le Seigneur nous dit que tout concourt au bien. J'ai détesté ce verset, j'ai demandé pardon à notre Dieu. Mais oui, tout concourt au bien. Si j'avais été opérée, je ne serais pas parmi vous, je ne vous verrais pas aujourd'hui. Je n'aurais pas revu ma sœur Daniela. Quelle grâce de pouvoir être là. Tout concourt au bien. Pas facile ce verset. Priez tous les jours, mes frères et sœurs. Demandez au Saint-Esprit, il nous a fait ce magnifique cadeau. Je ne vous laisse pas seul. Je m'en vais auprès du Père vous préparer une place. Je ne vous laisse pas seul. Vous ne serez jamais orphelin. Et ça, c'est, je le déclare et je le proclame ce matin. Nous ne sommes pas seuls. Père, Fils, Saint-Esprit. Et notre famille spirituelle ici, waouh! Ayez un frère ou une sœur à qui vous pouvez vous confier, qui peut prier avec vous. Il se passe des choses miraculeuses dans la prière avec un frère ou une sœur. Donc arrêtons nos pourquoi, parce que ça donne des fruits amers, sans saveur. Mais on n'a pas envie d'être ce panier de fruits. Le Seigneur nous dit que nous sommes appelés à avoir des fruits qui ont de la saveur, qu'on ait du goût pour les autres. Alors que je sois guérie ou pas physiquement, que je sois guérie ou pas dans mon cœur, est-ce que ce matin je décide de croire que Dieu a le regard sur moi? Est-ce que je crois que ce matin que Dieu ne m'a pas abandonnée? Et comme Werner, je décide de marcher à pied et de faire un pas. Je vais vous demander, c'est quoi ce sac? Depuis Clarence, hein, ça ne peut pas être évident à transporter. Alors, on va le mettre ici. Tu avais tout un panier finalement. Alors, ce matin, si vous êtes dans le désert, amen, Eh bien, les racines sont toujours là. Parce que Jésus nous a changé de terreau quand on lui a donné sa vie, notre vie, pardon. Ce matin, si vous vous sentez vraiment sec, vous voyez, vous êtes dans cet état. Est-ce que vous décidez de marcher par la foi? Ou vous dites, non, moi je sais qu'il y aura des feuilles vertes, Jésus l'a promis. Est-ce que tu veux attendre 40 ans dans le désert? Et je le prends pour moi aussi. Ce matin, ça fait des années que vous êtes dans une famille chrétienne. Ça fait des années que vous marchez avec Jésus. Moi, je crois en Jésus. Je le sers dans l'église. Puis ce matin, le Seigneur te dit, t'as poussé, t'as grandi, hein. Tu t'es même multiplié, t'as porté du fruit. Waouh! Mais il y a des épines. Quelles sont vos épines ce matin? On n'est pas appelé à avoir des épines. Ça fait mal au cœur. Et ça crée de la souffrance. Et ce matin, le Seigneur t'invite à dire, est-ce que tu veux marcher par la foi et croire que je peux enlever toutes ces épines? Mais mon temps n'est pas ton temps, mon planning n'est pas le tien. Laisse-moi faire. En mon temps. J'ai été tellement arrosée. Oh, je crois que j'ai été tellement arrosée. Voilà, il y a des feuilles, etc. Tu es peut-être à ce stade-là. Il y a des petites feuilles. La semence a bien germé. Mais en route, tu as perdu des feuilles. Est-ce que tu crois que Jésus peut te redonner d'autres feuilles ce matin par la foi? Nous sommes appelés à être sept plantes. Peu importe que ça soit une petite plante, une grande, mais elle est belle, elle a des feuilles, elle se porte bien. Et je crois que le Seigneur désire qu'on soit comme ça, qu'on soit en bonne santé spirituelle. C'est ça le plus important, finalement, pour porter du fruit. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sans son eau dans cette oasis, nous ne pouvons pas germer. Nous ne pouvons pas avoir des feuilles. Et nous ne pouvons pas, à notre tour, porter du fruit. Pour conclure, Jésus nous dit qu'il est celui qui guérit nos corps, qui guérit nos âmes, qui guérit nos esprits, qui guérit nos cœurs. Ce matin, je crois que le Seigneur veut vraiment parler à nos cœurs. Est-ce que tu es prêt à aligner ton cœur sur le cœur de Jésus, sur sa parole, la vérité, la justice, l'espérance, la paix, la réconciliation, la joie? Est-ce que tu es prêt ce matin de t'aligner sur son cœur pour qu'il augmente ta foi par son esprit? Est-ce que tu es prêt ce matin pour le laisser transformer tes repères, changer tes repères ou changer de terreau ou recevoir son eau? Est-ce que tu es prêt ce matin à faire un pas de plus pour accueillir sa boussole, pour apprendre à faire des petits pas? Mais qui dit petits pas, dit des grands pas pour le royaume. Ne sous-estimons pas les petits pas. Et c'est vrai que notre Père, Jésus, prie constamment pour nous, il l'a dit dans sa parole, qu'il était parti auprès du Père intercéder pour nous. Alors je crois de tout mon cœur, de toute ma pensée et de toute mon âme, que nous pouvons y puiser de la force dans nos circonstances douloureuses parce que son esprit est puissant et qu'il vit en nous. Que nous puissions ce matin nous laisser arroser par lui, jour après jour, pour croître, grandir et fructifier.
Nous étions le chemin.
Mais à tout moment, ce qui est chouette, c'est qu'on peut être dans un désert, perdre nos feuilles, mais Jésus reviendra toujours nous tenir la main. Si on cherche son cœur et si on passe du temps dans sa présence à se repentir, à s'humilier, alors on avancera. Parce que tu es précieux, parce que tu es précieuse et que tu as de la valeur pour moi, et que tu comptes. Je donnerai des vies pour toi. C'est ce qu'il nous a dit dans sa parole, Isaïe 43, 4. Il nous a promis qu'on ne sera jamais seul, qu'il ne nous laissera jamais orphelins, parce que nous avons l'Esprit de consolation. Il va, cet Esprit Saint qui est merveilleux, nous console, nous réconforte, nous guide, nous conseille, nous guide, de nouveau, nous corrige, nous enseigne et convainc nos cœurs de faire des pas de plus. Ce matin, est-ce que tu es prêt, dans ton cœur, à faire un pas de plus et laisser Jésus toucher ton cœur pour voir un peu plus loin, pas regarder au caillou, au rocher qui est devant toi ou à la vague, mais voir un peu plus loin les beaux projets de guérison qu'il a pour toi. Et on a vu que la guérison, c'est aussi les fruits.